pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Darmanin, l'État a essayé de détourner l'attention sur de la violence qui ne venait que d'eux. 3200 agents des forces de l'ordre pour protéger un trou vide.
Mars 2026, 3 ans après Sainte-Soline, le paysan et député écologiste Benoît Biteau.
Un trou vide financé par 70% d'argent public et un trou vide illégal. 30 000 personnes qui sont aussi des contribuables revendiquent ne pas vouloir que leurs impôts, l'argent public, aillent financer des projets dénoncés par la science, condamnés par la justice, veulent se réunir pour manifester qui est un droit constitutionnel, on leur interdit la manifestation. Dans un contexte de dérèglement climatique, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, on doit repenser une agriculture qui, si elle ne se repense pas, va être la première victime du délire porté par des Duplon, par des Genevard, par des Arnaud Rousseau, qui continuent d'avancer droit dans le mur et d'accélérer.
Reprendre la main sur des communs vitaux, l'eau, la terre, l'air, c'est encore possible. Lutter contre cette mortifère agro-industrie, lutter contre les cancers engendrés par ces pesticides et autres poisons chimiques, lutter contre Duplon, ses fermes-usines, ses méga-bassines et son inutile acétamipride tueuse d'abeilles, lutter contre Genevard, ministre de l'Agriculture aux pesticides, lutter contre Rousseau, chef de la pieuvre agro-industrielle FNSEA, mettre en place d'autres modèles d'agriculture et de gestion du commun, sortir d'un absurde technosolutionnisme et revenir à la raison, tout cela est encore possible. Et ces luttes ne se passent pas seulement en manif sous répression policière, ces combats ont aussi lieu dans les labos, les tribunaux, dans les instances de gestion de l'eau où des citoyennes et citoyens lambda peuvent siéger. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off et pour votre radio encore libre préférée. Mars 2026, 3 ans après la féroce répression policière de Sainte-Soline, la ville de Mel, dans les Deux-Sèvres, accueille à nouveau le collectif Bassine Non Merci, qui a notamment organisé cette table ronde sur la politique de l'eau, dont on vous a proposé la première partie au précédent épisode de cette émission. Alors une heure de parlotte un peu technique, ça donne pas forcément envie, mais il va se dire là des choses terriblement importantes sur l'eau et sur notre santé. Alors le but de cette restitution de table ronde n'est pas de faire de vous des professionnels de la gestion de l'eau, on va pas ici vous expliquer ce que sont les clés, commission locale de l'eau, ni les SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ni le PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, des instances envahies par des promoteurs de l'agro-industrie. Ce que vous allez entendre, c'est qu'avec militantes et militants, paysannes et paysans, politiques, syndicalistes, scientifiques, citoyennes et citoyens, contribuables lambda comme vous, nous avons notre mot à dire sur notre santé, sur la gestion de l'eau, de la terre, de l'air, sur l'utilisation de nos impôts, et que celles et ceux qui s'en sentent capables ont le droit de siéger dans ces instances et de surveiller les élus pour ne pas laisser les leviers de décision à la FNSEA et donc à l'agro-industrie. Comment lutter? Comment gagner? Adeline de Bassine Non Merci relance la table ronde.
Comment faire face? On a un panel de 6 intervenants et intervenantes qui représentent différentes phases de la société. On a des élus au niveau national, syndicats, des citoyens, des paysans, des associations, des collectifs. Et donc cette troisième partie, on va prendre sur quelques exemples justement comment avec différentes casquettes, on peut intervenir et faire bouger les lignes. On a parlé d'un énorme acronyme, le PTGE. Je vais te demander, Anne Morwenn, est-ce que tu peux nous parler aussi des alternatives? Qu'est-ce qui peut être proposé d'autre et justement en lien avec le PTGE?
Anne Morwenn Pastier, docteur en sciences de la Terre, hydrogéologue.
Je peux vous parler de l'expérience qu'on a eue avec VIT 85 et Terre et Rivière. Sur le département de la Vendée, on a fini, pour faire court, en faisant un petit peu pression, par être reçu par le PTGE Vendée-Sèvres-Autisme. Je vais faire le petit plaisir de vous dresser le tableau du Sud Vendée. C'est parmi les premières méga-bassines qui sont arrivées en France. C'est le modèle vendéen où tout le monde dit « Mais regardez, les bassines, c'est génial. Le marais, il va tellement mieux depuis. Les conflits d'usage, ils se sont arrêtés. » Le bassin des Otis, c'est vraiment la plus grosse concentration de bassines, de volume bassinable au kilomètre carré. Et les bassines, ça a tellement bien marché que dans le nouveau PTGE qu'ils préparent, ils veulent en refaire. Parce qu'en fait, ça n'a pas si bien marché finalement. Et le Marais Poitevin, il ne va pas si bien que ça. Les objectifs, ils ne sont pas tenus. Donc ils veulent refaire des bassines. On a fini par s'imposer. Hein. Il a fallu que Vite 85, qui était à Rivière, organise une conférence publique pour qu'on arrive à être entendu au PTGE. On leur a proposé de reprendre le fonctionnement normal de ce qu'on appelle l'hydrosystème du Marais Poitevin. L'hydrosystème, c'est juste quand on regarde les relations entre les nappes, les rivières, la pluie, etc. Il y a quand même eu plein de rapports demandés, d'études scientifiques demandées sur l'état du Marais Poitevin depuis les années 90, qui disent toutes qu'il faut garder le fonctionnement traditionnel du marais avec l'ennoiement des marais mouillés. Il y a une partie entre le reste du bassin versant et vraiment la plaine, qui est une ceinture, ce qu'on appelle les marais mouillés, qui retiennent l'eau de pluie du bassin versant pour qu'on puisse cultiver dans les plaines ce qu'on appelle le marais desséché. Et ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a décidé qu'on n'inonderait plus les marais mouillés. Voilà, on leur a montré qu'en renoyant les marais mouillés, non seulement on gardait de l'eau pour l'aval, puisque l'idée c'est d'irriguer en aval à la base, mais ce que je leur ai montré, c'est que ça permet de rehausser le niveau de la nappe en amont. Du coup, juste remonter le barrage à la cote à laquelle il était traditionnellement, donc ce qui coûte 0 euros, hein, puisque tout est déjà prêt, ça permet de stocker immédiatement des millions de mètres cubes dans la nappe, accessible à tous les irrigants qui ont déjà leur forage, pour 0 euros et tout en préservant l'écosystème. On m'a dit, bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on cultive dans les marais mouillés? Je dis, bah voilà, des pâturages, comme ça en août, il y a de l'herbe verte, du maraîchage. En fait, le seul blocage qu'il y a, c'est ces quelques gros céréaliers qui veulent vider les marais. Quand même, il y a toute une tendance sur la restauration des bassins versants, comment on identifie certaines zones humides qui sont des clés pour maintenir les niveaux de nappe assez hauts. Dans le monde scientifique, en tout cas, ce sont des voix qui se font entendre de plus en plus et qui arrivent à faire entendre que nos solutions sont plus efficaces que le technosolutionnisme.
Est-ce qu'Amandine, tu peux nous parler de comment se mobilise la Confédération Paysanne? Les liens aussi, est-ce qu'il y a des liens faits avec les autres pays?
Amandine Pacot, de la Confédération Paysanne.
La Conf, on essaye de continuer à se mobiliser depuis toujours sur la question de l'eau. Même si ça en emmerde beaucoup, on reste un syndicat représentatif, donc on a nos places quand même dans pas mal d'instances. Même si souvent, dans les instances de l'eau, c'est la Chambre d'agriculture qui représente le monde agricole, on n'y est pas. Sinon, on a quand même des sièges dans certaines instances, notamment là au niveau national, on a obtenu d'avoir un siège au Comité national de l'eau. Là, on fait pression sur les préfets en ce moment parce que les clés, justement, les personnes qui siègent vont être renouvelées. Actuellement, il n'y a pas de place pour les syndicats agricoles. On fait pression, on n'est pas les seuls. Donc à voir aussi si on arrive à y rentrer. Dans les PTGE, c'est pareil. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait nous inviter. Donc là aussi, légalement, on est censé être dans les comités de pilotage des PTGE. Donc là, il y en a un, par exemple, sur la Sèvres-Niortaise, auquel on participe. Mais bon, il n'y a aucun moyen hein, là-dessus aussi. Hein. Ils annoncent des trucs, mais en fait, ils mettent pas de sous en face. Donc bon, les PTGE, ça les emmerde plus qu'autre chose, quoi. Mais donc, on essaye voilà, d'être présent partout où on peut. Vendredi matin, il y avait Genevard qui est venu sur une énorme ferme, la plus grosse ferme consommatrice de volume d'eau en Deux-Sèvres. Ben là aussi, voilà, en tant que syndicat agricole, on avait notre place. Donc nous, on essaye de la prendre dès qu'on peut, que ce soit en local ou au national, pour dire qu'il y a une autre manière de faire de l'agriculture. C'est important, en fait, d'essayer de chiffrer d'autres alternatives, parce que là, on voit bien, ça coûte un pognon, enfin, ça coûte tellement d'argent. Et en fait, sans parler d'aller vers que des gens en vente directe, en bio, enfin voilà, moi c'est mon idéal, mais... Et ça, c'est pas la Conf qui le dit, c'est l'INRA. Si on changeait par exemple 30% de la solde de maïs en sorgho, en mettant de l'argent dans la filière sorgho pour que les agriculteurs ils puissent vendre correctement, avoir des débouchés, en fait ça coûterait moins de fric et du coup on aurait un impact sur la consommation des agriculteurs. Ils consommeraient moins d'eau, quoi. Donc en fait il y en a plein des solutions qui sont pas non plus révolutionnaires, quoi. Allonger les rotations entre les différentes cultures, enfin... Il y a plein de choses qui sont possibles et nous, voilà, la conf, on essaye de toujours ramener ça pour dire mais en fait, le modèle méga bassine, c'est votre solution à vous là que vous avez identifiée, mais en fait, il y en a d'autres moins coûteuses et plus performantes. Donc voilà, donc ça, il faut le marteler. Donc ça, c'est vraiment pour la partie quantité d'eau qui est utilisée par les agriculteurs, mais il y a aussi sur la qualité. Donc là, du coup, la conf aussi en Ille-et-Vilaine est à fond à côté des autres organisations pour parler plutôt la qualité. Après, on est sur le terrain, on essaye d'être toujours aux côtés de tous les copains et copines qui se mobilisent. Comme aujourd'hui, j'annonce juste là le 11 avril à Brissac dans le 49. Donc c'est un projet de bassine là dans une ancienne carrière. Donc en fait, ils agrandissent la carrière. Donc il y a aussi tout un combat contre l'accaparement de la terre. Il y a ce projet de bassine qui va alimenter 12 fermes. Sinon, je refais écho un peu à ce qui a été dit au tout début, mais je trouve que c'est positif, c'est que le combat en Deux-Sèvres et en 86, il forme aussi les militants sur place. Partout en France, enfin, nous on voit la conf dans la Sarthe, ils sont déjà à fond au taquet, ils comprennent comment ça fonctionne et du coup ils sont en veille permanente. Dans le Gard, il y a déjà eu plusieurs mobilisations portées par la conf et d'autres partenaires sur l'eau. Enfin, on se prépare aussi partout et ça je trouve que c'est hyper fort et positif. Dernier exemple de mobilisation côté conf. En fait, notre plaidoyer, on est convaincu d'une autre gestion de l'eau, convaincu qu'on peut cultiver autrement, mais on manque de données, on manque de chiffres. Et du coup, on a lancé cette année, enfin on avait commencé l'année dernière, mais là on lance une grande enquête sur l'eau, en fait, sur le territoire national. Vraiment, l'idée, c'est que ça soit de la recherche participative, que ce soit les paysans eux-mêmes qui expliquent comment ils font pour vivre sans mégabassines et même sans irrigation. Plus de 90% des paysans et des paysannes. Et donc, du coup, après, avec ces données, on veut appuyer notre plaidoyer. Ça, voilà, c'est un travail aussi qui se fait sur le terrain. Et le lien avec les autres pays, bien sûr, il y a la Via Campesina. Nous, on a une attention à travailler avec le Brésil, le modèle de l'agro-industrie. Hein, c'est un autre niveau que nous. Et pourtant, ils arrivent à avancer, à faire passer des politiques différentes de gestion de l'eau, notamment pour l'agriculture paysanne. C'est des choses qui se construisent et on a du boulot, mais en tout cas, on lâche rien et faut continuer à lutter, quoi. Il n'y a pas le choix.
Avant justement d'aller sur les mobilisations citoyennes, comment se mobilisent les élus qui sont justement pas dans la majorité et enfin dans le mouvement actuel, quoi.
Benoît Biteau, paysan, agronome, député de Charente-Maritime.
On a quand même à côté de nous deux incorrigibles révolutionnaires qui veulent faire manger de l'herbe à des herbivores. Je vous invite à méditer cette réflexion. Alors les élus, moi j'ai vécu une période de ma vie d'élu où j'étais dans la majorité et où là on a des vrais leviers. Sans vouloir me jeter de fleurs et manquer d'humilité et de modestie, si on n'a toujours pas réussi à engager des fonds régionaux ou des fonds européens sur les mégabassines sur le périmètre Poitou-Charente, c'est parce que j'ai posé un règlement d'intervention en 2011 qui compliquait tellement les règles pour financer les mégabassines sur ce périmètre-là que, comme il a tenu jusqu'en 2023, on n'a pas réussi à libérer les fonds régionaux. Et comme au moment où les régions deviennent autorités de gestion pour les fonds européens en 2013, je construis le plan de développement rural régional pour la région. Je reprends exactement les mêmes règles que celui du règlement d'intervention voté en 2011. Et donc jusqu'en 2023, presque 2024, on n'a pas réussi à débloquer ni des fonds européens, ni des fonds régionaux sur les mégabassines, parce qu'ils étaient bloqués par ces outils-là. Donc c'est aussi ça, être élu, avoir un peu de subtilité, poser des grains de sable dans des mécaniques qui sont pourtant très lourdement financées. On a fait le tour tout à l'heure via la politique agricole commune, via des plans dédiés, via les agences de l'eau. Eh bien, le fait de poser ce petit grain de sable sur une partie des financements pressenti a probablement ralenti considérablement ces projets de mégabassines. Après, quand on est dans l'opposition, et c'est mon cas, là, il faut être encore plus créatif, imaginatif, parce que on a un rouleau compresseur, que ce soit à Bruxelles, avec la Commission, et c'est des retours en arrière. Et donc là, ben, il faut être un peu créatif. Et C'est ce qu'on a essayé de faire sur la loi du plomb, sur la loi d'orientation agricole, c'est-à-dire qu'on a fait des saisines du Conseil constitutionnel sur la loi d'orientation agricole. Sur les 14 articles qui étaient portés par le Sénat et Laurent Duplomb, on a réussi à en faire péter 13. 13 sur 14, c'est quand même pas si mal. Et sur la loi Duplomb, on n'a pas tout gagné, mais on a quand même fait retirer l'acétamipride. Donc voilà, c'est ça, être élu dans l'opposition, mais c'est resserrer les liens avec la société civile. Et moi, je demande que les élus retravaillent avec tous ces collectifs, toutes ces associations, tous ces syndicats, pour qu'on fasse cause commune, qu'on arrive à faire vivre une convergence des luttes. Et je vous demande à vous de ne pas regarder les élus comme des gens vilains, parfois pourris, parce que parmi les élus, il y a ceux de l'opposition qui, je vous garantis, font le boulot pour essayer de relayer vos revendications. Les élus vous ouvrent les portes de l'Assemblée nationale, parfois du Sénat, et vous ouvrent la parole. Quand on est élu de l'opposition, on essaie d'être créatif, je le répète, et en toute humilité, je vous dis, moi j'ai besoin de vous, on a besoin de vous pour réussir à faire bouger les lignes quand on n'est pas dans la majorité.
Merci pour l'intervention. Donc justement, quand on est citoyen et tout, comment on peut intervenir ? Caroline, je vais te redonner la parole à Cancer Colère, et puis après au collectif Bassine Non Merci.
Caroline Proust, du collectif Cancer Colère.
Merci. À Cancer Colère, jeune collectif, donc on essaye... On essaie de faire beaucoup de choses différentes, mais la première, c'est avant tout d'informer, de faire de la pédagogie, parce qu'en fait, on s'aperçoit que même auprès de nos proches et même de militants à côté de nous, cette question des maladies, parce qu'il n'y a pas que le cancer, tu gères toutes ces maladies là, qui sont provoquées par les violences chimiques, ça concerne aussi les questions d'infertilité, ça concerne les questions de maladies auto-immunes, ça concerne donc les maladies endocriniennes, en fait, ça concerne tellement de choses. Il est difficile pour un cerveau normal de se dire, bah ouais, en fait, là, on est entouré d'agents qui peuvent nous rendre malades et nous tuer et tuer nos enfants. Et c'est normal qu'un cerveau normalement constitué, vraiment, fasse pas la bascule. Nous, on a fait la bascule parce que nos histoires personnelles ont fait que c'est un processus. Et du coup, moi, je comprends que ce soit difficile de mettre ces lunettes qui sont comme les lunettes du genre à un moment, de voir ce truc-là où on est dans un environnement dangereux. Et donc, nous, on essaie de faire la pédagogie auprès de tout le monde, mais aussi du grand public, et c'est pas simple, en fait. Voilà, je parlais de ce côté scientifique où on se renseigne énormément pour essayer de vulgariser, la science. Mais ce qu'on essaye aussi, avant tout, c'est pour faire comprendre et pour faire aider à la bascule, c'est de changer une certaine rhétorique. Je vais donner comme exemple, pour vous faire comprendre, Octobre Rose. Octobre Rose, qui est une grosse blague. C'est ce qu'on appelle du pinkwashing, hein. Une espèce de grosse campagne financée par des gens qui sont pas forcément les mieux placés en termes de protection de la santé environnementale, tout ce qui est crème solaire, tout ça. Enfin, voilà. Et en fait, les gens sont contents et satisfaits parce qu'ils portent des rubans roses et parce qu'on dit qu'il faut faire un dépistage du cancer du sein. Bah, déjà que les gens qui empoisonnent portent un ruban rose, en fait, c'est pas ça qu'on veut. On peut pas se satisfaire de ça, de voir Annie Genevard qui porte un ruban rose, on s'en fout un peu. Demander aux gens d'aller faire un dépistage. Alors c'est bien, hein, il faut faire des dépistages, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire. Sauf que la question, c'est quand même que quand on fait un peu de dépistage, c'est qu'on est déjà malade. Une vraie politique de prévention, c'est empêcher les gens de tomber malades. Ça paraît débile, mais en fait, c'est ça, nous, qu'on demande. Nous, ce qu'on veut, c'est ne pas être malade, ne pas voir nos enfants tomber malades. Et ce serait ça, une vraie politique de santé publique. Donc, Octobre Rose, nous, ça nous hérisse les poils. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec Cancer Colère, c'est que les gens comprennent qu'en fait, on se fout un petit peu de nous et qu'on essaye toujours de faire porter des responsabilités personnelles. Je viens d'avoir un flash sur la Ligue. La semaine dernière, la Ligue contre le cancer, ils ont fait une série de posts, une campagne. En fait, ça commence par « Non, les pesticides, c'est pas ça qui rend malade. » Donc là, nous, en fait, on voit ça, on fait des bombes 4 mètres. Et il y avait un autre post juste après, c'était « Non, les crèmes solaires ne donnent pas le cancer. » Et on dit, non, les gars, ils insistent. Et là, il y a un troisième poste qui dit « Attention à la désinformation scientifique. » Ouais. On est assez nombreux de plein d'organisations qui luttent contre les pesticides à être en lien un peu quotidien. Donc quand les gars font une blague comme ça, en fait, on est assez nombreux à en même temps dire « Eh, vous avez vu le poste ?» Il se trouve qu'ils ont enlevé le poste sur les pesticides parce que le truc est monté et qu'ils ont eu les oreilles qui sifflent. Si on n'est pas vigilant et qu'on n'est pas tous ensemble à dire non, ça c'est pas possible, on va pas vous laisser faire, ils vont continuer à faire des trucs comme ça. La Ligue, c'est pas des copains, quoi. Et donc, dans les solutions pour revenir à nos moutons, bah c'est ça en fait, c'est de rester tous ensemble, tous vigilants, ça rejoint tout ce qu'on dit, hein, la convergence des luttes. Si on ne la fait pas maintenant, on la fera quand, la convergence des luttes? Enfin, on est un peu au pied du mur. Là, on parle de l'eau, on parle de la santé, enfin, on parle de sujets un peu précis, mais on a bien conscience tout cela qu'en fait, le sujet, il est plus large. Et que là, en plus, dans tout ce qui se passe, rien que dans tout ça, on en parlait tout à l'heure, des problèmes démocratiques dans la manière de faire ces lois-là, on est au pied du mur. Ouais, là, c'est maintenant tous ensemble, et on va y arriver tous ensemble.
Du coup, dans les moyens d'action, bah, peut-être pour faire un petit package à Bassino Merci, nos moyens d'action, ils sont... On fait et on a fait énormément d'informations, de pédagogie. C'est ce qu'on va continuer à faire ensemble sur la LUA, d'aider à décrypter et de porter ces messages. Parce que vraiment, il y a un truc, même quand on parle d'inégalité de répartition des volumes d'eau, par exemple, il y a énormément de rétention d'informations. Ça passe dans la LUA de réduire le débat public. Et en fait, qui est-ce qui assure aujourd'hui le débat public? C'est nos collectifs. C'est nous qui faisons fuiter les infos, qui faisons les analyses, qui organisons les réunions publiques. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur à BNM, quoi. C'est nous qui faisons l'information sur les bassines et maintenant au-delà, sur la gestion de l'eau, etc. Enfin, c'est nos collectifs, quoi. Évidemment, un autre pied sur lequel on joue, bah, c'est celui du rapport de force. Voilà, il va falloir... Peut-être qu'on se creuse la tête aussi pour savoir quel autre type de rapport de force on met en place, comment on peut les faire chier sur tous les points, tout le temps, tous ensemble, quoi. On a bien vu, par exemple, avec Sainte-Soline, quoi, qu'on arrive à des limites dans ce genre de mobilisation massive. Comment on réinvente nos rapports de force, et comme tu as dit, ensemble, quoi, avec nos complémentarités, et comment on entre en symbiose pour que nos actions vraiment s'amplifient. On est tous ici force de proposition aussi. Alors, je m'excuse platement parce que j'en ai oublié une, mais on a aussi fait avec BNM Haute Couture un énorme travail collectif sur un PTGE alternatif citoyen. On regorge de gens très brillants dans nos collectifs qui, quand on se met ensemble, on trouve vraiment des solutions presque faciles à mettre en œuvre très rapidement, quoi. Contre cette loi d'urgence agricole, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire, voir comment on peut travailler ensemble, commencer à produire des analyses et de l'information justement pour que les gens puissent s'approprier ce texte qui est imbuvable, sinon, quoi, comprendre ce qui nous attend. Aussi, dans l'actualité, c'est qu'avec les municipales, il va y avoir un gros chamboulement dans la composition des commissions locales de l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'élus municipaux dans ces clés. Un travail qu'il va falloir qu'on fasse sur chaque bassin, c'est regarder quelles vont être les nouvelles personnes nommées, puisque toutes les personnes qui n'ont pas été réélues, par exemple, ne vont pas pouvoir continuer à siéger en commission locale de l'eau. Est-ce que ces gens ont des conflits d'intérêts? Faire pression sur les nouvelles municipalités pour que les représentants et représentantes qui sont envoyés dans les clés ne soient pas des doubles casquettes, ne soient pas à la fois maire et irrigant, ne soit pas à la fois maire et draineur. Vraiment, suivez vos municipalités, qui est envoyé dans ces instances de l'eau. Il y a toujours des offensives juridiques, bah, notamment encore en Haute Couture, un verdict en attente. Il y a un projet 14 bassines, 9, 14 c'est celles qui existent déjà, qui ont été annulées en première instance par la justice, qui la passe en deuxième instance. Donc on va avoir le verdict prochainement. Ouais, voilà, côté juridique, c'est ça.
Merci. Vous l'avez compris, en fait, en fonction de ses compétences, il y a une place dans les collectifs citoyens qui est pour chacun. Il y a compétences et il y a aussi temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être à plein temps. On peut avoir des petits moments par-ci, par-là et contribuer, et chaque contribution est importante. On peut, sur un moment de l'année, contribuer, et puis sur d'autres moments de l'année, d'être pris. Donc n'hésitez pas à contacter tous les collectifs. Et puis pour conclure sur cette dernière intervention, il y a quand même eu un déclic avec la loi du plomb. Il y a quand même le grand public qui s'est prononcé. Et donc je te redonne la parole sur cette question-là.
Julien Rivoire, chargé des campagnes agriculture à Greenpeace.
Je vais revenir là-dessus sur les enseignements. Non pas pour se dire qu'il y a des recettes de victoire, je mets des guillemets, hein, c'est pas une victoire législative. Mais je pense que vraiment, effectivement, il y a une victoire idéologique. On a marqué des points. Et donc, il ne s'agit pas de trouver la recette qu'il faut utiliser, mais se dire, ok, qu'est-ce qui a fait qu'il y a 2 100 000 personnes qui ont signé? Qu'est-ce qui a fait qu'au-delà même des signatures, il y a nos propositions, nos positions qui se sont imposées à l'agenda et qui s'avèrent majoritaires, au-delà des 2 millions, tous les enquêtes, etc., le montrent, et les discussions avec les proches, etc. Je pense qu'il faut rompre avec toutes les récits de l'événement spontané. C'est une erreur de penser que, comme ça, il y a des hasards qui tombent du ciel. Non, il y a tout un travail militant qui a déjà été mis en place à partir même de janvier 2025. On a notamment, par exemple, au sein du collectif Nourrir, qui regroupe plus de 54 organisations dans lesquelles on va retrouver la Conf Paysanne, on va retrouver la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, on va retrouver des assos environnementales, on va retrouver des associations de solidarité Nord-Sud, etc. Bon, on va avoir un travail qui a été initié dès janvier, personne n'en parlait, mais qui va commencer à irriguer, etc. Tu as parlé de printemps bruyant, même si c'était assez confidentiel l'an dernier, mais la loi du plomb est évoquée chez les réseaux militants, etc. C'est pas le grand public, mais ça commence à être là. Sans ce travail de l'ombre, on n'arrive pas en juillet. On vit tous et toutes ce travail de l'ombre, militant, de fourmi, il est nécessaire, essentiel. Qu'est-ce qui s'est produit après? C'est commencé à monter. Je pense qu'il y a un autre ingrédient très important, c'est la question des alliances, des convergences, des compositions, on utilise le terme qu'on veut, où on va voir au-delà déjà des mouvements et des associations un peu traditionnelles mais qui sont assez diverses, on va voir arriver toutes les associations de victimes, Cancer Colère, le collectif des victimes de pesticides de l'Ouest, Phytovictimes, etc., etc. On va avoir Coadep, etc., qui vont tous se mettre en mouvement. On va avoir des chercheurs et des chercheuses qui vont sortir de l'ombre ou en tout cas de leur habituelle réserve, parce qu'ils en ont aussi marre que tout leur travail scientifique soit dénigré, etc. Mais ça va peser. On va avoir des institutions. Alors on a parlé du CNRS, on a parlé tout à l'heure de l'Ordre des médecins, etc. Tout ça va peser. On va avoir même, et c'est pas habituel pour nous qui militons depuis longtemps, de voir les mutuelles qui vont se mobiliser. Le puzzle qui est en train de se constituer et qui va faire que, pas toujours tous ensemble et tout ensemble, mais avec nos manières de faire, ce mouvement va commencer à prendre de l'ampleur. Et puis la mobilisation, elle a existé au mois de juin. Elle n'était pas dans la grande presse, mais le 30 juin, 10 000 personnes qui se réunissent. La semaine d'après, il y a plus de 100 rassemblements en France qui sont organisés. Ça montre un ancrage. La presse quotidienne régionale qui commence à en parler. Et puis, il y a un autre ingrédient, c'est l'incarnation. Alors, c'est fleurs, c'est cancer colère, etc. C'est cette image aussi très forte au Parlement. Il n'y a pas un ingrédient qui est déterminant. Il y a besoin de tout. Et c'est aussi un des enseignements qui est très important. On a besoin de l'alliance et de la composition. On a besoin du travail militant. On a besoin de l'incarnation pour ne pas être que dans théorie. Ça veut dire que des organisations comme Greenpeace, parfois, il faut apprendre à se taire, à se mettre derrière, etc. Avoir tout ça en tête. Et puis, peut-être aussi se dire qu'on est plus nombreux et nombreuses que ce qu'on pense. Voilà. Ah ouais. Et puis on allait cliquer là, on voyait ça montait, et puis tout le monde qui en parlait, et puis les boucles familiales qui renvoyaient la pétition, alors qu'on ne discutait pas forcément toujours, on ne discute pas toujours politique en famille. Et c'est là où on voit qu'il y a un événement social. Je pense que ça doit nous donner de la force, parce qu'en ce moment on en a besoin, on ne va pas se cacher que voilà, sur plein d'autres combats, c'est dur. Donc il faut enregistrer aussi ça. Il y a des suites à construire à partir de ces enseignements en évitant toute idée qui est une recette magique. Il faut toujours qu'on réinvente des choses, ça sera toujours nouveau, etc. Mais on a ces éléments-là. Sur la LUA, il y a des enjeux, là, bien sûr, à travailler assez rapidement et à voir comment on arrive, suivant nos points d'accroche différents, à composer ensemble pour faire échouer ou l'enliser. Parce qu'on ne va pas se cacher que le rapport de force à l'Assemblée nationale et encore plus au Sénat, il n'est pas tout à fait favorable. Donc on peut se dire, on va construire un rapport de force, etc. Mais on a vu même sur la loi du plomb que franchement, il s'assoit dessus. Donc il va y avoir aussi, il y a besoin de l'information, de la mobilisation populaire, et puis de stratégies peut-être d'enlisement. Là, c'est plutôt des ONG qu'on... Et puis les élus, on va essayer de voir comment ils vont faire. Ils ont pris un risque. Hein. Au départ, ça devait être une loi hyper resserrée, très réduite. Et puis là, il y a plus de 23 articles. Ça prend dans tous les sens. Ça va être la fête pour le RN et LR. Qui vont en rajouter dans tous les sens, etc. Ben peut-être que c'est un risque que le Cornu a pris. En tout cas, il faut tout faire pour que l'ampleur de cette loi la conduise à la poubelle. Ils n'arrivent pas à gérer dans un temps très contraint. Ils ont un temps très contraint parce qu'il y a plein d'autres choses dans le Parlement. Et puis à partir de septembre, il y aura le budget qui va revenir et après la présidentielle, etc. Donc ils sont un peu sous pression de faire passer un truc. Et très clairement, entre nous, on est nombreux à ne pas comprendre pourquoi il a ouvert tant de dossiers dans cette loi. Au début, ça devait être juste l'eau, le loup et les moyens de production. Puis en fait, il ouvre à plein d'autres choses. Donc ça veut dire plein d'amendements. Donc un texte long à rallonge. Bah, peut-être qu'on va s'en servir. Il y a l'omnibus, bien sûr, qu'il va falloir mettre à mal. Il y a une coalition qui existe. Pour l'instant, tout n'est pas en place, y compris, et c'est compliqué entre les États, etc. C'est un combat internationaliste avec les autres pays en Europe, etc. Et puis, pour nous, à Greenpeace, et je pense qu'on le partage, avec Cancer Colère, mais avec beaucoup d'autres, nous, notre volonté, c'est que 2026-2027, on arrive à mettre à l'agenda nos sujets. Ça va être que les mouvements sociaux et environnementaux et écologistes surgissent dans le débat, qu'on ne soit pas spectateurs et spectatrices, et qu'on fasse en sorte qu'on parle moins d'immigration, d'islam et compagnie, mais plus de santé environnementale, changement du modèle agricole, etc., d'écologie protectrice, une écologie désirable, etc. Là, il y a un vrai enjeu à réfléchir ensemble, à voir comment on met à l'agenda cette écologie protectrice des ressources, de notre santé, du travail et des travailleurs et des travailleuses aussi, et des questions sociales et des luttes contre les inégalités. Ça se fera avec toutes ces coalitions du plomb. Nous, on va aussi essayer de faire le lien avec dans un autre cadre, c'est l'Alliance écologique et sociale, avec la Conf Paysanne, avec l'Union syndicale solidaire, avec la FSU, enfin voilà, aussi avec des organisations de travailleurs et de travailleuses, pour essayer d'avancer des propositions et d'avoir une contribution qui soit aussi de notre contribution de lutte contre l'extrême droite et l'extrême droitisation de la société. Ça participe aussi de faire advenir nos propositions et de reprendre l'offensive. Voilà. Et on a besoin de s'appuyer sur ces dynamiques positives.
Quand on regarde un petit peu la presse, la télé, tout ça, on a un peu l'impression d'être peu nombreux. En fait, non, on est nombreux et c'est important de l'avoir en tête. Il y a pas mal de monde dans un état de sidération. Et en fait, c'est normal aussi parce qu'il y a tellement de violence en ce moment qui s'exerce sur nos mouvements, sur les idées, sur les textes, tout ça. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans un état de sidération au fond d'un canapé qui me disent « Mais là, on s'en prend tellement plein la gueule, en fait, on ne sait plus comment réagir. Ouais, on va tous trouver dans un régime d'extrême droite. Enfin, » Mais moi, vraiment, j'entends des trucs de gens que j'aurais jamais pu penser qu'ils auraient pu arriver dans cette phase-là, quoi. Et oui, il y a des gens qui sont en phase de sidération. Donc la question, effectivement, c'est d'aller les chercher, de leur dire « Non, vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble et tous ensemble, on va y arriver. » Et donc, pour ce faire, en fait, je voulais donner une petite astuce de Fleur Breteau, idée de génie. Nous, on a été 2 100 000 à signer cette pétition, sans compter ceux qui n'ont pas réussi à aller sur le site de France Connect et tout, mais on va dire 2 millions. On a conscience qu'en fait, tout le monde n'a pas le temps, l'énergie, ou pour plein de raisons, ne peut pas militer quotidiennement. Mais si ces 2 100 000 prennent une journée, juste une journée, avant les élections présidentielles, pour militer, essayer de faire avancer la cause, ça peut être génial. Donc essayez de propager l'idée, juste chacun des signataires passe une journée à la cause. Une idée.
Comme les mauvaises herbes entre les failles du goudron, comme les ronces des friches qui défient le béton. Ce qui repousse partout ne peut être dissous, ce qui repousse partout ne peut être dissous. Comme les hirondelles qui s'élancent au printemps, comme les pavés rebelles qui débordent d'élan. Ce qui vole de partout ne peut être dissous, ce qui vole de partout ne peut être dissous. Comme un coup de scalpel qui débâche en secret, comme certains tractopelles se retrouvent amputés. Ce qui sabote partout ne peut être dissous, ce qui sabote partout ne peut être dissous. Comme les chansonnettes qui fleurissent en riant, comme ma mère sous la douche qui se prend pour Céline Dion. Ce qui chante de partout ne peut être dissous, ce qui chante de partout ne peut être dissous. Comme un pas de scotiche en pleine garde à vue, comme une valse en manif au milieu de la rue. Ce qui danse partout ne peut être dissous, ce qui danse partout ne peut être dissous. Ce qui danse partout ne peut être dissous, ce qui danse partout ne peut être dissous.
Ce qui repousse partout, extrait du disque L'eau qui mord, avant de passer aux questions du public de cette table ronde politique de l'eau du 28 mars 2026.
La problématique du changement climatique n'a pas été abordée. J'ai l'impression que c'est encore pire que ce que vous nous dites, quoi.
La docteure Anne-Morwenn Pastier, hydrogéologue.
Alors, je vais essayer de pas déprimer toute la salle. Le réchauffement climatique par rapport à la perspective sur le cycle de l'eau. Alors, on entend tout et n'importe quoi. On entend, vous inquiétez pas, il pleuvra plus en hiver et moins en été. On va faire des bassines, tout ira bien. En fait, on sait que les modèles climatiques donnent des grandes tendances sur des grands espaces. Il faut imaginer que la France, c'est 4 pixels, quoi, dans l'image, au final. C'est vraiment dur d'avoir des images précises. Nous, on est dans une zone vraiment où c'est très dur d'avoir des projections climatiques. Il y a des modèles qui disent qu'il pleuvra plus en hiver, il y a des modèles qui disent qu'il pleuvra moins, il y a des modèles qui disent qu'il pleuvra pareil. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire comment va vraiment évoluer le climat sur l'Hexagone. Quand on commence à dire ça aux politiques, ils nous disent « Oh, bah alors il y a de l'incertitude, vous ne pouvez pas nous prédire exactement ce qui va se passer, donc on ne vous écoute pas. » Bah quand même, on peut affirmer des choses, et ce qu'on peut affirmer, et moi ce qui me fait très très peur, c'est pas la tendance, c'est pas la moyenne, c'est vraiment comment ça devient de plus en plus variable, de plus en plus aléatoire. Ce qu'on voit qui manque dans les modèles climatiques, on va dire que la conséquence, c'est qu'on ne voit pas comment les cycles vont être déréglés. En fait, on le voit depuis au moins 2022, ce qu'on voit surtout, c'est des anomalies. C'est qu'on passe du chaud au froid, du sec au très humide. Avec le réchauffement climatique, ça va devenir de pire en pire. On sait qu'on va se taper des années d'inondations et des années de sécheresse. On sait qu'on va avoir 2 mois sous la flotte et ensuite 6 mois sans rien. Le printemps dernier, il n'a pas plu pendant 2 mois. Les nappes se sont vidées immédiatement. Donc on est très très vulnérable à ces aléas, à cette variabilité qui augmente, mais beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Il y a cette accélération, il y a certains phénomènes, on disait oh, ça c'est pour 2100, finalement c'est 2050, finalement on l'a observé en 2022. Ma grosse crainte, je ne suis pas la seule, hein, vraiment, c'est ce côté incertain, aléatoire, où les politiques ne veulent rien voir. Ils disent nous, on veut votre travail, il n'est pas assez sérieux, on veut des projections solides. Mais en fait, quand on regarde, il y a plusieurs sources d'incertitude au niveau des projections. Il y a la variabilité du climat, il y a l'incertitude des modèles, et puis après, il y a l'incertitude politique. C'est ce qui fait diverger les courbes énormément. La plus grosse source d'incertitude, c'est nos scénarios, combien de pétrole on va sortir, comment on va continuer d'aménager le territoire. Voilà. Et on devrait être capable de faire une politique de l'incertitude, de se dire, au niveau de la gestion de l'eau, ce qu'on essaye de voir avec les fameuses études HMUC, c'est combien au maximum on peut sortir des nappes tous les ans. Il faut passer à un mode de gestion où on se dit, c'est quoi le minimum qu'on a besoin de prendre? Qu'est-ce qu'on peut laisser dans les nappes? Parce que si ça se trouve, l'hiver prochain, elles ne sont pas rechargées. Désolée pour le cauchemar.
Question vis-à-vis de la gouvernance de l'eau. Étant donné qu'il y a beaucoup d'élus qui vont partir des clés et d'autres qui vont arriver, est-ce que le politique est formé à ces questions-là ou non? Et si c'est le cas, qui s'occupe de former les politiques? Est-ce que des collectifs ou des ONG s'en occupent?
La réponse doit être vachement rapide, en fait, c'est non. Mais à nous de mettre en place ces sujets-là. J'ai en mémoire quand même l'intervention d'une personne de la DDT 86 qui dit en clé, va quand même falloir qu'on se forme. Elle voit autour de la table qu'il y a des gens qui sont au courant de pas grand-chose, mandaté par d'autres élus qui sont élus dans la communauté de communes et puis qui vont aller s'installer là, quoi. Après, il y a aussi quand même, des gens qui sont à la tête de syndicats de rivières, qui font de l'entretien de berges, qui font de la renaturation, qui font de la restauration de cours d'eau. Ces gens-là sont au courant, ils savent de quoi on parle. L'État, les représentants de l'État, moi j'en rencontrais qu'une, elle est pas mal. Elle est même carrément dans une posture justement de formation du groupe, mais pour d'autres, ils sont franchement pro-irrigants, quoi. Donc leur formation est déjà faite. Voilà.
Juste sur la position que j'aurais tendance à défendre sur la question de la formation des élus, ça serait presque de dire que c'est bien que ce soit des élus qui ne soient pas formés. Il faut se méfier de ces élus qui disent « Oui, mais moi j'ai une spécialité, je connais très bien la question de l'eau. » Mais en fait, c'est pas ton rôle. Il y a des représentants de l'État, les DT, des techniciens, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se former, qu'il faut pas être formé au fur et à mesure, mais ils ont une fonction politique de réponse et de garantir l'intérêt général. Et donc, c'est pas des techniciens. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ceux qui vont se précipiter sur ces postes, on en a beaucoup qui sont téléguidés par la FNSEA. Téléguidés ou en lien. Ils disent « Ah, mais moi, je connais bien la question de l'eau, j'ai une vraie expérience, je connais, en gros, je suis irrigant, etc. » Mais en fait, c'est pas ça ce qu'on te demande. Encore une fois, la question technique dans les commissions locales de l'eau, elle peut être apportée et conseillée, et il peut y avoir des temps de formation, il faudrait qu'il y ait des temps de formation par les directions techniques adéquates, les associations, etc. Mais bon, ce qui vaut pour l'eau vaut pour plein d'autres choses. On ne veut pas des élus qui soient des techniciens. Sinon, ça, c'est de la technocratie. Et c'est plus la démocratie. Par exemple, la FDSEA en Bretagne envoie le message en disant « Voilà, on a gagné un premier round sur la Vilaine. Il va falloir aller voir tous les élus là et nos amis, nos sympathisants. Il faut les convaincre d'aller prendre les places sur la question de l'eau. » C'est explicite. C'est une stratégie que nous, on a pointée dans le rapport, mais ils le disent, ils l'assument, etc. Nous, de notre côté, il faut aller convaincre des élus qui ont le souci de l'intérêt commun et rassurer les gens en disant « Ok, tu connais rien à la politique de l'eau, tu vas lire le rapport de la Conf qui est très bien, le rapport de Greenpeace, et on va t'aider, etc. » Juste si tu as envie, vas-y. Et sur la composition, c'est en pourcentage, c'est pas en nombre, ça dépend des commissions locales de l'eau en général, et puis de leur voilà, la commission locale de l'eau de la Vilaine, elle est vraiment très importante. Il y a vraiment, en gros, il y a 20% usagers non économiques, c'est plein d'associations, et 20% d'usagers économiques, ça, on va retrouver des industriels, on va retrouver des agris, etc. Ça va beaucoup dépendre aussi de la situation économique du coin. Hein. Voilà, il y a des endroits où il n'y a pas d'industriels, d'autres, voilà, dans le nord, il peut y en avoir. 40% enfin, des élus, collectivités territoriales, et 20% de représentants de l'État et de ses établissements publics. Et c'est des fonctionnaires.
Est-ce que des fois, on ne rend pas service à l'État quand on met tous ces petits grains de sable qu'on fait les uns les autres? Ils ne dépensent pas d'argent pour construire des bassines et ils nous font porter le chapeau.
Moi, je pense pas parce que, en fait, des deux côtés, il y a cette stratégie de la montre, de gagner du temps. Et bah, mine de rien, avec nos grains de sable, dans le Clin, aucune bassine construite pour l'instant. Oui, ça fait un peu le jeu de la propagande d'État d'alimenter ce faux clivage écolo-agri. Mais du coup, je pense que la solution, c'est plus comme ce qu'on essaye de faire. D'expliquer que c'est pas nous qui votons le Mercosur, que c'est pas nous qui achetons les matières premières à trois fois rien, donc c'est pas nous qui sommes responsables. Ah non, moi je vais continuer de lui mettre des grains de sable et puis ils pourront se servir de ça pour alimenter leur propagande. À mon avis, il y a un moment, c'est en train de se fissurer les différences entre les gros et les petits irrigants. Et, enfin, leur bloc se fissure, quoi. Ils commencent à le voir que la grande majorité, que c'est pas nous qui allons. Les empêcher de transmettre leurs terres, par exemple, à leurs enfants. C'est leur voisin qui va les racheter. Donc non, continuons de mettre des graviers, des grains de sable, des galets, des blocs, tout ce qu'on veut.
Oui, puis du coup, on leur fait même perdre de l'argent, quoi. Enfin, clairement, ça coûte tout ça, des projets qui prennent du retard comme ça. En Charente-Maritime, là, du coup, ça fait des années et des années donc, qu'ils étudient des projets de stockage, donc qu'ils ont envie de les mettre en place. Ça avait coûté 1,2 million d'euros d'études, rien que d'études, quoi, pour rien. Donc, c'est plein de thunes, en fait, par-ci, par-là, et ça fragilise leur modèle économique aussi, quoi. Et donc, il y a un moment, en fait, les agriculteurs... ça fait plus de 10 ans, en fait, qu'on essaye de mettre des projets de stockage... Et puis on n'y arrive pas, mais les agriculteurs sont toujours là. Les agriculteurs sont toujours là alors qu'il n'y a pas de méga-bassine. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire sans méga-bassine. Si ça n'avançait pas, les agriculteurs allaient se détourner des projets de stockage. Donc on est là-dedans, donc voilà, allons-y.
Quel est le mal appris qui a tout pris l'eau du dessous? Dénudé sans un sou, il faut sauver l'eau. Et si l'idée coulait de source, jusqu'à la dernière goutte, ce sont nos mares qu'on assassine. bas à bas, goutte à goutte, laissons le chêne prendre racine. Et si l'idée coulait de source, et si l'idée coulait de source. Nous ne rattraperons ni la petite ni l'eau vive, si les ruisseaux s'en vont avant que les enfants les suivent. Et si l'idée coulait de source, et si l'idée coulait de source.
Encore une chanson extraite du disque « L'eau qui mord » avant de poursuivre avec cette autre table ronde organisée par le collectif Bassine Non Merci. C'était le samedi 28 mars 2026 à Mel, pas très loin de Sainte-Soline, toujours autour de la politique de l'eau avec des politiques, des élus donc. À nouveau Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime, et Clémence Guettet, députée France Insoumise de la 2e circonscription du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Bon, mes premiers mots vont pour les organisateurs de ces journées, parce que c'est, ça se fait dans un contexte de répression, de surveillance, d'intimidation auquel il faut pouvoir résister. Je veux leur dire merci de à la fois permettre un rassemblement symbolique pour celles et ceux qui partagent le trauma de Sainte-Soline de la manifestation d'il y a 3 ans, et puis aussi un rassemblement sur le fond, parce que cette lutte contre l'accaparement de l'eau par quelques-uns, évidemment, elle continue. J'ai envie de dire qu'elle est même plus que jamais d'actualité. Donc moi, je représente la France Insoumise. On était 7 députés de la France Insoumise à Sainte-Soline il y a 3 ans. Face à un déferlement de violence, face à un usage disproportionné de la force, face à des gestes illégaux de la part des forces de l'ordre, face à un dispositif largement disproportionné, qui ne répondait en rien à une quelconque menace qui viendrait en face, on a fait ce qui était attendu de nous, c'est-à-dire essayer d'user de ces écharpes qui sont les nôtres pour protéger au mieux des gens qui étaient en danger de mort, en réalité, à ce moment-là. 4 blessés très graves, je le rappelle. Et puis quand même, moi j'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes arriver ensanglantés, blessés, meurtris souvent pour toute une vie, arriver derrière ce cordon qu'on essayait de former à quelques élus et à plein de camarades qui n'ont pas ces écharpes et qui ont pris eux aussi évidemment tous les risques à ce moment-là. Voilà, il me semblait que c'était important d'être là symboliquement pour marquer la continuité de notre engagement. Après Sainte-Soline, en 2023, moi j'ai défendu une loi à l'Assemblée nationale lors de notre journée de niche parlementaire avec la France Insoumise qui exigeait un moratoire sur les méga-bassines, parce qu'on sait qu'ici il y a une lutte, une résistance très forte. C'est le cas aussi dans la région de Clermont-Ferrand où je suis allée. Mais malheureusement, c'est bien un modèle pour tout le territoire national, ces ouvrages de stockage d'eau et cette multiplication absolument insensée, débridée, sans aucune perspective d'aménagement du territoire et encore moins de gestion raisonnée de la ressource en eau face au changement climatique et à ce qui nous attend. Donc en fait, ici, c'est un lieu où ça résiste, mais malheureusement, on parle vraiment d'une politique menée au niveau national. Bon, on s'est fait balayer sur la loi à l'Assemblée nationale parce que malheureusement, l'hémicycle est composé de forces réactionnaires sur tout un tas de sujets, mais sur la question écologique, de gestion de l'eau, sur les pratiques agricoles, on fait face quand même à un mur idéologique très fort avec des gouvernements macronistes qui, je dirais, dans leur rythme de succession rapide, se font encore plus bornés au fur et à mesure. Madame Genevard en étant un exemple parmi tant d'autres, ils sont une continuité. Dernièrement, avec Benoît, avec tous les autres à l'Assemblée nationale, je le rappelle, on a eu à lutter et à essayer de nous opposer à la loi du plomb, à la loi du plomb 2. Et là, d'ici une quinzaine de jours, nous arrive une loi dite d'urgence agricole. Et dans cette loi d'urgence agricole, il y a une dérégulation totale, justement, de toutes les autorisations environnementales, procédures de concertation, réunions publiques des citoyens, face à la construction et la généralisation de ces ouvrages de stockage d'eau. Donc on a encore du travail, on le sait. On sait aussi qu'on est minoritaire, mais malgré tout, je crois qu'on occupe une place importante pour montrer qu'un autre modèle serait possible, montrer que, surtout, en fait, c'est notre avenir commun qui est en jeu, qu'il s'agit de défendre l'intérêt général, c'est-à-dire que la COP de l'eau ici est paroxystique de l'accaparement par quelques-uns, et notamment par quelques agriculteurs, au détriment de tous les autres, citoyens, citoyennes, habitants, habitantes, mais aussi une très large majorité d'agriculteurs et de paysans, paysannes. On a l'impression parfois de prêcher un peu dans le désert, mais moi, à chaque fois que je reviens ici, je me dis qu'on a des points d'appui d'abord, qu'il y a des gens qui luttent, qui parfois y ont dédié une énorme partie de leur existence. Et puis surtout, je crois aussi dans la conscience collective, dans quelques ouvrages symboliques mais très importants de méga-bassines qui ont été interdites par la justice, qui sont bloquées, dont les chantiers s'enlisent, etc. J'y vois aussi des victoires potentielles. La Macronie n'est pas là jusqu'à l'infini. Une autre politique de gestion de l'eau est possible. À l'Assemblée nationale, j'ai aussi déposé 2 demandes de commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Quels ordres ont été donnés, quelles responsabilités politiques doivent être engagées, celle de M. Darmanin en premier lieu, mais toute la chaîne de commandement qui en découle. Mediapart nous prouve que des images, et notamment des caméras piétons, montrent des gestes interdits par des gendarmes, par des policiers, par les forces de l'ordre de manière générale, montrent la violence verbale, l'intentionnalité dans la volonté de blesser, de meurtrir, voire de tuer, puisque ça a été dit dans les images dont on dispose, et pourquoi l'IGGN et l'IGPN, les instances dites de contrôle de la police et de la gendarmerie, qui sont elles-mêmes la police et la gendarmerie, n'ont rien fait de ces images en plus de 3 années. Donc voilà, on continue de mener par tous les moyens qui sont à notre disposition, comme parlementaires, le combat, comme militants insoumis, puisque je représente aussi un mouvement politique, à être aux côtés de celles et ceux qui luttent dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres. À Clermont, j'en ai parlé, mais partout dans le pays. Voilà.
Julien Leguet, co-porte-parole de Bassines Non Merci.
La lutte contre les méga-bassines, on est clairement face à un rouleau compresseur, un capitalisme triomphant qui n'a pas de frontières et qui sait très bien mettre toutes ses forces dans la bataille. Au sein de notre mouvement, et on partage ça avec les soulèvements de la terre, on parle de composition. La composition, c'est faire avec toutes les forces en présence, avec toutes nos différences et avec nos capacités et notre culture. Face à ce rouleau compresseur, c'est tous nos savoir-faire qui sont à activer. Et que donc ce travail qui est fait devant l'Assemblée nationale, il est complémentaire du travail qui est porté par des associations de protection de la nature comme Nature Environnement 17 qui va gagner devant les tribunaux, et que ça c'est complémentaire de tout ce mouvement populaire, toute cette mobilisation qui vient mettre en exergue les problématiques et qui font que les décisions de justice, elles sont prises avec sérieux, là où quand c'est pas identifié, ben il y en a plein, hein, des scandales, des projets qui n'auraient jamais dû voir le jour, mais juste ça passe zoom zoom, il n'y a pas de visibilité, ben ça passe quoi. Là aujourd'hui on peut être sûr que le moindre projet de méga-bassine, il est scruté très 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 attentivement. Et notamment, c'est un enseignement de Sainte-Soline, on est nombreux à avoir été très choqués. Et comment on continue à lutter dans ces conditions-là? Quelle place on trouve dans les mouvements? Ben, il y a un truc qu'on a bien compris, il y a de la place pour tout le monde, il y a plein de modalités d'action. Il n'y a pas un rôle qui est plus vertueux que l'autre, il n'y a pas d'héroïsme. Faire à manger pour toute l'équipe, gérer des cantines, brasser des tas de compost, faire front en noir ou en bleu aux forces de l'ordre, l'ensemble contribue de la résistance.
Merci Julien.
Benoît Biteau.
La preuve qu'on peut être élu et militant, qu'on peut être élu et engagé. Nous, à l'Assemblée nationale, on est minoritaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une assemblée où la majorité se fait avec d'autres logiciels, d'autres logiques que ce que nous, on défend, qu'on adhère à ce qui se passe. Et on est en résistance en vrai. On est des résistants. On est avec vous en résistance. Je reviens sur Sainte-Soline. Je peux vous garantir qu'il y a 3 ans, jour pour jour, ici, dans ce cinéma, lors de la conférence de presse du lendemain, il y avait une chape de plomb. Il y avait une chape de plomb et je peux vous assurer que c'était pas facile pour tout le monde, et y compris pour moi qui représentais les élus qui étaient présents à Sainte-Soline, que de débriefer un tel chaos, un tel massacre, un tel carnage organisé par l'État lui-même. Et ce qu'on a dû faire, ce qu'on continue de faire, c'est de remettre en haut du débat un débat de fond. C'est ce que disait Clémence à l'instant quand elle demande un moratoire sur les méga-bassines. C'est ça qu'on doit faire. Darmanin, l'État, a essayé de détourner l'attention sur de la violence qui ne venait que d'eux. Je rappelle quand même qu'on a déployé 3200 agents des forces de l'ordre pour protéger un trou vide. Un trou vide où il n'y avait rien à détruire. Un trou vide financé par 70% d'argent public. Et un trou vide, effectivement, illégal. Et c'est de ça que je veux vous parler aussi, parce que dans la résistance qui est la nôtre, nous les élus, si on veut retrouver aussi le partenariat fort qu'on doit constituer avec des collectifs, avec des associations, c'est d'être les relais efficaces de l'intérêt commun, du respect, de l'état de droit.
Et si je veux vous parler de l'état de droit, c'est que dans les jours qui ont suivi Sainte-Soline, des gens comme Clémence, comme moi, on a été contestés dans notre présence à Sainte-Soline parce que, paraît-il, nous ne serions pas respectueux de l'état de droit à avoir manifesté sur une manifestation interdite. Eh bien moi, je veux, 3 ans après, vous interpeller sur ma conception de l'état de droit. Quand les scientifiques, tous les scientifiques un peu sérieux, nous disent que les méga-vaccines, c'est de la maladaptation, c'est pas la bonne réponse et qu'on va aggraver la situation, on est dans du technosolutionnisme qui n'est qu'une fuite en avant et qui nous emmène un peu plus vite dans le mur sur la gestion de l'eau. Quand, sur la base de ces expertises scientifiques, les tribunaux, tribunal administratif surtout, donne raison à tous nos recours, qui fait que la bassine de Sainte-Soline est illégale et que malgré ça, on a une préfète qui délivre une autorisation environnementale, une autorisation d'aménagement. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Et que les citoyens, 30 000 personnes quand même, qui se sont intéressés au dossier, qui sont aussi des contribuables, revendiquent ne pas vouloir que leurs impôts, l'argent public, aillent financer des projets qui sont dénoncés par la science, qui sont condamnés par la justice, veulent se réunir pour manifester qui est un droit constitutionnel, on leur interdit la manifestation. Eh bien moi je me pose la question, qui était irrespectueux de l'état de droit entre les élus qui étaient avec ces 30 000 citoyens sur la manifestation et ceux qui nous font un procès en irrespect de l'état de droit? Eh bien moi je vais même plus loin que ça. Je vais plus loin que ça. Quand la justice s'est prononcée, quand les scientifiques se sont prononcés, quand les citoyens réclament le pouvoir de manifester pour dire on ne veut pas que l'argent public aille sur ces terrains-là, c'est les élus qui n'étaient pas avec ces 30 000 citoyens qui ne sont pas très respectueux de l'état de droit. Après, il faut continuer ce récit de réalité, ce récit de vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un contexte de dérèglement climatique, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, on doit repenser une agriculture qui, si elle ne se repense pas, va être la première victime du délire porté par des Duplon, porté par des Genevard, porté par des Arnaud Rousseau, qui continue d'avancer droit dans le mur et d'accélérer. C'est pas avec ceux qui sont à l'origine du problème qu'on va trouver la solution. Et donc il nous faut absolument, et c'est ce qui a permis notamment la pétition contre la loi Duplon, il nous faut absolument préserver cette mobilisation citoyenne, replacer ce sujet de l'agriculture dans un véritable débat de société. Parce que quand on parle de l'agriculture, on parle de la nourriture de tout le monde, on parle de l'eau qu'on boit tous les jours, on parle de l'air qu'on respire, on parle de notre santé, et on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent public. Et donc on ne peut pas laisser, avec la complicité de Darmanin, avec la complicité de Macron, avec la complicité de Genevard, laisser ces sujets-là confisqués par la sphère agricolo-agricole consanguine de la FNSEA, et nous réapproprier cette question, la replacer dans un débat de société. Et c'est ce que nous, les groupes du Nouveau Front Populaire, essayons de mettre en musique à l'Assemblée nationale et mes collègues au Sénat également. J'ai écrit mes premières réserves sur l'opportunité des bassines en 99, c'était le siècle dernier. Des jeunes ont pris le relais et le sujet monte et j'espère qu'on va réussir à abandonner ces projets d'un autre temps, en tout cas qui n'apportent pas de réponse pour les agriculteurs.
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, comme disait l'autre. Vous l'aurez compris, quel que soit le mode d'action, il ne faut pas abandonner les instances de gestion du commun à des industriels. Et une manière d'agir est notamment de s'intéresser et de participer à ces instances, à commencer par surveiller qui sont et que font les élus et leur demander des comptes. Et pour ça, vous trouverez d'ailleurs de la doc sur le site de Bassines Non Merci, qu'on remercie. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio toujours libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.